France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français,
et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le poutinisme, première partie, un pragmatisme brutal.
La Russie est ce qu'elle est en tant que nation. Pour ceux qui sont avec nous, tout ira bien. Les autres, on les tuera.
Je tiens à vous dire que moi, je voterai pour vous et que les employés de notre usine, eux aussi, ils vont tous voter pour vous.
Nous n'avons pas de loi interdisant l'homosexualité. Nous interdisons la promotion de l'homosexualité auprès d'un public de mineurs.
Moi, j'ai un très grand respect pour le président Poutine. C'est un homme qui tient ses engagements et avec lequel le dialogue est possible.
Ce week-end, les Russes votent pour Vladimir Poutine. La question ne se pose même pas. Le président de la Fédération de Russie effectuera son 5e mandat. L'occasion de se demander ce qu'est le poutinisme, quel est cet isme. Autant vous dire qu'il ne s'agira pas aujourd'hui, et dans le prochain numéro d'Enquête de politique, qu'il ne sera pas question de grands débats idéologiques. La démocratie russe est une farce et il convient de s'interroger sur le fonctionnement de ce théâtre d'ombre et sur le soutien réel d'une grande partie de la population pour l'homme Vladimir Poutine. Nos esprits français, très politiques, férus de débats d'idées, doivent faire un effort particulier pour se mettre dans le crâne d'une population russe qui n'a jamais connu la démocratie libérale, celle qui nous est familière. Deux Français d'origine russe qui ont vécu longtemps en Russie et y ont encore de nombreux contacts vont nous aider dans cet exercice. Véronica Dorman, journaliste à Libération, ancienne correspondante à Moscou, autrice avec Kechnia Bolchakova de Un peuple qui marche au pas chez Jean-Claude Lattès. Et Igor Gran, né à Moscou en 1964, romancier, essayiste, auteur notamment de Z comme zombie aux éditions POL en 2022 et plus récemment de l'entretien d'embauche au KGB chez Bayard. Nos deux intervenants aujourd'hui n'ont pas tout à fait, vous allez le constater, pas tout à fait la même conception des causes de l'adhésion ou de l'apathie du peuple russe vis-à-vis de Vladimir Poutine. D'abord, Véronica Dorman. Véronica Dorman, vous n'aimez pas qu'on vous demande ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine parce que personne n'y est. Voilà, ça reste le mystère. On a envie quand même de savoir ce qu'il y a dans la tête des Russes. On sait bien que cette question est un peu illusoire parce que les Russes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Russes en ce moment ?
Depuis 2 ans que la Russie est en guerre, certainement des émotions et des sentiments très divers. De manière très grossière et très générale, je dirais qu'il n'a pas perdu de son soutien, si on peut parler d'un soutien. En tout cas, les élections de ce week-end sont un plébiscite. Le Kremlin n'aurait même pas besoin de bourrer les urnes et de tronquer les résultats comme à son habitude. Ensuite, est-ce que c'est un soutien par le cœur, par l'esprit,
par la
conviction politique,
par l'intérêt ?
Rien n'est moins sûr et ça, je dirais non. Parce que le processus électoral en Russie n'est pas un processus d'expression de son opinion ou de ses désirs politiques. Donc la grande difficulté pour nous ici en Europe depuis toujours, c'est d'analyser justement ces chiffres et ces votes pour voir la part de soutien réel et de comportements qui n'ont rien à voir avec un soutien.
Parce qu'il faut peut-être se mettre un petit peu dans la tête de la mentalité russe. Nous, on est un peuple très politique et quand il y a des élections, il y a des débats, même dans les familles, on est pour ou contre telle mesure qui est proposée par tel ou tel candidat.
On se situe dans une filiation politique très ancienne, de gauche ou de droite, républicaine ou pas. En Russie, les débats dans les familles, à la machine à café, entre collègues, c'est pas ça?
Les débats sont souvent des espèces de bastons à bâton rompu qui peuvent finir avec des coups de poing et de la vaisselle cassée. Et ils ne sont pas une confrontation d'arguments raisonnables. C'est très émotionnel, c'est presque du même niveau qu'un débat sur l'existence ou non de Dieu, ou voilà, pour le débat politique. Et surtout, depuis ces dernières années où Poutine est un personnage clivant. La conversation est impossible entre ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas. Et ça, c'est vrai, ça a commencé en 2014, à l'annexion de la Crimée. C'est à ce moment-là que le début de cette guerre qui ravage l'Ukraine et l'annexion de la Crimée, donc il y a 10 ans, où cette rupture entre ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas a été absolument consommée et tout dialogue a été définitivement annulé.
Finalement, il y a une dichotomie assez radicale, telle que vous nous la décrivez, qui peut ressembler un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis entre les Trumpistes et les non-Trumpistes. Peut-être en Europe aussi, nos débats deviennent de plus en plus polarisés. Sauf que là, vous nous parlez d'une société politique et démocratique, enfin démocratique entre guillemets, qui n'a jamais eu cette culture de débat, de confrontation, de conviction. On essaye de convaincre l'autre.
On a scène des vérités. On a scène des vérités et qui ne sont pas forcément des vérités vérifiées. On a scène des choses en disant, en plus, chacun a sa vérité. Et ça, c'est la tienne, ça, c'est la mienne. Mais je mourrai pour la mienne et je te tuerai pour la
ça,
tienne.
Ça a toujours existé.
Ça, c'est pas Poutine qui l'a inventé. Ça, c'est un truc qui existe dans la manière de penser le monde dans la culture russe. Mais on n'a pas beaucoup de statistiques. Parce qu'il n'y a pas de sondage indépendant en Russie, on ne peut pas savoir. Mais en gros, ce sur quoi semblent vraiment s'accorder les divers observateurs, c'est qu'il y a deux extrêmes très polarisés, donc les très 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 pro-Poutine patriotes, dont on ne sait pas si c'est sincère, une fois de plus, ou si c'est opportuniste, mais en tout cas, qui sont prêts à raconter n'importe quoi, à vendre leur âme au diable, c'est ceux des plateaux télé, c'est les propagandistes, c'est les vraiment méchants, qui sont prêts à aller jusqu'au bout.
La Russie est ce qu'elle est en tant que nation. Et nous continuerons à rester nous-mêmes. Pour ceux qui sont avec nous, tout ira bien. Les autres, on les tuera.
Yevgeny Satanovski, propagandiste de la chaîne Rossiya 1, animateur de l'émission qui a pour titre « Moscou, Kremlin, Poutine ».
Comprenez-moi, je n'ai pas d'autre recette à vous proposer. Et ils devraient réaliser que le moment venu, ce sera la fin pour eux, personnellement. Je peux vous dire que j'ai déjà une liste qui inclut des gens que vous connaissez, mais aussi des gens que vous ne connaissez pas.
Il y a de l'autre côté les opposants, donc ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques et de dire qu'ils sont contre Poutine, et ceux-là sont en prison, ou morts, comme Alexei Navalny, ou émigrés depuis le début de la guerre. Beaucoup restent à l'intérieur du pays, mais ceux-là, on ne les voit pas, ils se taisent.
On a pu un peu les voir, quelques-uns, au moment des obsèques de Navalny, quand même.
Exactement. Certains sont sortis, ça c'était la grande surprise.
Vous avez été surprise de voir...
Absolument, parce que depuis 2 ans, on nous explique, et c'est ce qu'on observe, c'est qu'on ne sait pas où sont passés ces gens-là. On a l'impression qu'ils ont tous quitté la Russie, on a l'impression que tous ceux qui osaient s'exprimer sont partis. Et en fait, là, tout d'un coup, comme des muguets, ils ont poussé sous la neige, tout d'un coup, et on les a vus. Et on voit qu'il en reste, en fait, beaucoup plus que ce qu'on ne croyait. Et au milieu, il y a un ventre mou. Et c'est pas le ventre mou qui va basculer d'un côté ou d'un autre, c'est juste tous ces gens qui ne sont ni pour ni contre, ou pour et contre, et en fait qui n'ont pas d'avis tranché, qui vont voter comme on leur dira de voter.
Un peu comme beaucoup de Russes, ce ventre mou dont vous nous parlez, considéraient que l'amélioration de leur vie ou la détérioration de leurs conditions de vie ne dépendait finalement pas des politiques.
Exactement, parce qu'en Russie, c'est pas le pouvoir pour le peuple et le peuple avec le pouvoir, c'est vraiment deux mondes parallèles qui essayent de s'éviter. D'un côté, le pays, les gens, donc le peuple, et de l'autre côté, le pouvoir, le Kremlin. C'était vrai d'une autre manière sous le tsarisme, c'était vrai absolument sous le communisme, c'est resté complètement vrai dans la Russie post-soviétique. Et donc pour la société russe, plus les gens se tiennent loin du pouvoir, moins ils ont d'interaction avec que ce soit le pouvoir, les autorités locales, la police, la justice, le fisc, mieux on se porte. Et donc, ce qui provoque, ce qui a créé des logiques de contournement et de détournement, et on essaie de pas interagir avec le pouvoir. Et par ailleurs, donc, il n'y a pas de lien entre l'expression de mon désir, donc un vote, et ce qui va se passer. Même au niveau local, à un moment donné, il n'y a pas d'incidence entre ce que fait ou ce que promet un gouverneur ou même un maire et ce que va obtenir la population. Et donc, pour un Russe, lui dire voter, c'est important, parce que si tu t'exprimes pas, tu pourras pas demander des comptes. En fait, il peut déjà pas demander des comptes.
Ce qui fait, Véronika Dorman, que finalement, puisque la population russe n'a pas l'impression que voter pour Poutine ou contre Poutine n'aura d'influence sur sa propre vie, le fait que Poutine représente quelque chose de puissant et d'important au niveau mondial, ça devient finalement quelque chose de primordial pour l'électeur. Alors que dans notre culture, en France, c'est vrai qu'au moment des élections présidentielles, on s'intéresse peu à la politique étrangère, on s'intéresse au niveau des salaires, au niveau de sécurité, maintenant aussi au niveau d'immigration, de la vie quotidienne, mais pas tellement à l'image internationale. Là, pour une puissance comme la Russie, finalement, est-ce que la population russe estime que ce qui compte, c'est sa place dans le monde? Et là, Poutine, évidemment, c'est le maître.
À tout prendre, mais pas non plus de manière aussi active qu'on voudrait le croire. Il n'y a pas... Alors, le livre que j'ai coécrit avec ma collègue Sonia Bolchakova s'appelle « Russie, un peuple qui marche au pas ». C'est un peuple qui marche au pas, pas parce qu'il a décidé, il s'est choisi un leader et il le suit vraiment par dévotion, par conviction et par loyauté réelle et active, mais à tout prendre, puisque c'est celui qu'on nous propose. Par ailleurs, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre candidat, personne n'a émergé, et c'est l'une des caractéristiques du poutinisme, si on en parle, c'est qu'il n'existe pas de visage alternatif, parce qu'il n'y a pas d'alternance du pouvoir, ça n'a jamais été au programme. Il y a eu cette petite tentative avec Dmitri Medvedev, qui a été nommé président pendant un mandat, pour voir ce que ça faisait.
Un artifice constitutionnel.
Voilà, pour que Poutine puisse mieux revenir et pour plus longtemps. Mais en réalité, il n'y a que Poutine. Et donc il y a cette espèce d'expression en russe, c'est « si pas Poutine, alors qui ?» C'est un aveu d'abandon, en fait, du choix, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. En plus, de toute façon, on sait que c'est lui qui sera élu. Qu'on y aille pas, qu'on mette notre bulletin, que sur notre bulletin, il y ait marqué « je vous emmerde » ou une petite croix dans une autre case, ça ne changera rien. On sait que c'est lui qui finira au Kremlin, ce qui dénature complètement l'acte de voter. Et ensuite commencent les enjeux concrets pour chaque personne de ce vote. Si tu es un fonctionnaire dans une entreprise publique de ville moyenne et que ton directeur te dit « maintenant, en rang serré, on va tous voter et on vote tous pour Vladimir Vladimirovitch parce que c'est comme ça », et ben les gens vont le faire. Ils vont pas prendre le risque de pas le faire, alors que ça ne les engage pas, ça ne changera rien. Et donc ce vote-là, et c'est ce vote-là qui est majoritaire, c'est le vote des fonctionnaires, c'est le vote des instits, c'est le vote des postiers, c'est le vote de tous les, voilà, de toute cette couche de gens qui vont le faire par réflexe, par obligation, et pour pas se mettre à dos de leur hiérarchie, parce que ça, c'est plus important, de pas se mettre à dos sa hiérarchie que de se fourvoyer ou non dans ses convictions politiques.
Nous sommes toujours avec la journaliste Véronika Dorman, alors que se déroule ce week-end l'élection présidentielle en Russie. En quête de poutinisme, réalisation Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard et à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard. On retrouve Véronika Dorman. Alors pour bien comprendre ce que vous venez de nous dire, Véronika Dorman, je vous propose d'écouter un petit extrait d'un reportage de France Info de 2018, au moment de la dernière élection présidentielle.
Tant que vous serez président, notre pays restera prospère et personne n'osera s'approcher de nos frontières. C'est pourquoi je tiens à vous dire que moi, je voterai pour vous et que les employés de notre usine, eux aussi, ils vont tous voter pour vous.
Dans cette rue piétonne, au centre de la capitale, nous demandons aux passants ce qu'ils apprécient chez Vladimir Poutine.
C'est un patriote, un homme, un vrai. Je vais donner ma voix parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour ses concitoyens.
Vous ne trouvez pas que 18 ans au pouvoir, c'est déjà beaucoup ?
Si ça tenait qu'à moi, je voudrais qu'il reste pour toujours. C'est un homme intelligent, alors non, 18 ans, c'est pas trop. Ouais.
Sans attendre l'annonce de sa candidature, une députée du parti présidentiel a posté sur Internet cet hymne à la gloire de Vladimir Poutine. On y voit ses enfants de Volgograd, l'ex-Stalingrad, dire qu'ils sont prêts à mourir pour celui qu'ils appellent « Tonton Vladimir ».
Alors évidemment, Véronika Dorman, il y a le culte de la personnalité, mais au début de ce petit reportage, le premier intervenant qu'on entend, c'est un patron. Et il dit, comme ça, je vous annonce que tous mes employés voteront pour vous. Effectivement, on voit bien que le vote n'est pas un acte individuel.
Non, mais ni le vote n'est un acte individuel, pas plus que, par exemple, ceux qui sont sollicités pour faire le décompte des voix, les fonctionnaires qui sont sollicités pour faire le décompte des voix, sont ceux qui bourrent les urnes. C'est à eux qu'on demande, au nom de leur patriotisme, de faire en sorte que le candidat principal gagne. Donc, autant on peut avoir un patron, donc il y a plusieurs cas de figure, mais donc ce patron qui va dire à tous ses employés « je compte sur vous, ne me décevez pas, votez pour Vladimir Poutine ». Ensuite, ça peut aller de « je veux un screenshot de votre bulletin » à « simplement je vous fais confiance », donc ça ensuite ça peut dépendre des situations, à une directrice d'école qui réunit ses équipes qui vont être dans les commissions électorale et qui leur dit « Les filles, je compte sur vous parce que notre école a besoin d'argent. Et si nous ne délivrons pas les résultats escomptés, nous n'aurons pas l'argent dont nous avons besoin pour tels travaux, tel projet, tel machin. » Et donc, elle met dans une situation, enfin, elle prend en otage un collectif pédagogique qui sera impliqué dans des fraudes et qui passera, voilà, ensuite des soirées à remplir des bulletins et à bourrer des urnes.
Pour s'assurer d'avoir...
Pour s'assurer de la victoire, pour s'assurer des bons chiffres. Et tout ça, c'est un énorme, en plus, un énorme simulacre, parce qu'en réalité, d'une part, on bourre les urnes, mais ensuite, les protocoles, à la fin de journée, quand les urnes sont décomptées, il y a plusieurs moyens de fraude, et l'un des moyens, dans quel bourrage d'urnes, il y a le carrousel, faire voter plusieurs, les mêmes personnes plusieurs fois. Faire
le carrousel, ça s'appelle.
Ça s'appelle le carrousel. On prend un groupe de gens, on les met dans un car, et on leur fait faire plusieurs bureaux de vote. Et donc ça, c'est une vieille pratique qui est de moins en moins prisée, parce que c'est devenu visible et voilà, il y a la fermeture des bureaux de vote, les protocoles, tout ça, ça avait été signé au crayon de papier et au moment de rendre les chiffres, correction au dernier moment. Donc en fait, on pourrait presque ne pas se déplacer et juste rédiger ces protocoles des résultats en fin de journée et s'économiser tout le cirque des élections parce que le résultat est déjà connu d'avance et parce qu'il y a des chiffres qui sont fixés. Le comité central électoral fait partie aussi du système de corruption et donc ils ont des quotas, ils se sont fixés dans tel quartier, il faudrait qu'il y ait tant de votes, tant de...
Oui, il y a des objectifs chiffrés qu'il faut atteindre, voilà. Et chaque collectivité veut remplir ses objectifs.
Ouais. Ensuite, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que les opposants, par exemple, et certains des personnes qui luttent contre ce système et qui considèrent qu'il faut malgré tout continuer à participer aux élections, parce que c'est un grand débat aussi parmi les opposants en Russie, parmi les détracteurs du régime, c'est est-ce qu'on participe à ce simulacre et du coup on l'entretient, ou est-ce qu'on le boycotte parce que ce n'est pas un processus électoral. Et parmi ceux qui disent qu'il faut y aller, il y a cette idée qu'une instite qui remplit des bulletins sait qu'elle commet un geste répréhensible, elle sait qu'elle est en train de mentir, et qu'en fait, ou alors une qui assiste à un protocole corrigé en fin de journée, elle voit qu'il se passe un truc qui n'est pas honnête. Et qu'il faut quand même continuer pour que les gens aient l'occasion de voir qu'ils participent au mensonge, qu'ils aient l'occasion de se remettre en question, qu'ils puissent avoir des remords, que, voilà, qu'il ne faut pas complètement abandonner ce terrain-là. Après, les résultats ne sont pas quantifiables.
Bien sûr. Alors, ce que vous nous décrivez, Véronica Dorman, c'est le contraire d'une démocratie libérale, c'est une démocratie autoritaire, pour prendre le terme le plus gentil qu'on puisse utiliser. Est-ce qu'il y a des endroits, peut-être à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les plus grandes villes, est-ce qu'il y a une sociologie russe qui se rend compte que ce n'est pas une démocratie libérale, qui sait faire la différence avec ce qui peut se passer dans les pays européens, de l'Union européenne, et qui aspire à une démocratie qui serait plus dans les canons de nos démocraties, ou est-ce que c'est considéré comme quelque chose d'étranger et c'est pas pour eux?
Non, on peut pas dire ça, parce que la réalité c'est que les Russes aujourd'hui, quel que soit leur âge, n'ont aucune expérience, n'ont jamais vécu dans un pays démocratique et dans une démocratie libérale. Ils ne savent pas tout bonnement pas ce que c'est. Certains ont lu des livres et peuvent avoir une vision théorique de ce que c'est. Certains ont voyagé, ont pu vivre dans des démocraties occidentales et donc l'avoir expérimenté, mais globalement, les Russes ne savent pas ce que c'est parce qu'il n'y a même pas d'héritage. Ils ne peuvent pas faire appel à une histoire passée, à un siècle, à un âge d'or, à un moment où ça s'était bien passé, donc on a des souvenirs. Alors, il y a des bribes, il y a eu des tentatives d'ouverture, il y a eu les années 90 quand l'URSS a chuté, mais c'était beaucoup dans les discours, comme on a très rapidement compris et découvert par la suite, on en a les preuves aujourd'hui. De toute façon, tout pareil, même Yeltsin n'était pas un vrai démocrate libéral, parce que, en fait, l'ancien système n'avait pas chuté. Et ceux qui étaient au pouvoir à la fin de l'URSS, dans le Parti communiste, sont restés au pouvoir, et la corruption a tout rongé, et il n'y a pas eu de vraie élection complètement libre.
Peut-être. Donc pour le russe moyen, si on peut utiliser ce terme, notre démocratie, la démocratie occidentale ou américaine, c'est une sorte de monde un peu sauvage.
Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça.
Comment ils nous voient?
En revanche, le russe moyen, comme vous dites, et je sais pas si on peut dire ça, mais en fait, les Russes veulent pas vivre dans la crasse, veulent pas vivre dans l'injustice, veulent pouvoir faire... Enfin, j'aime pas... Il y a beaucoup de détracteurs de la Russie qui aiment dire que voilà, peuple esclave, mentalement, ils ont besoin d'une main forte, ils ont jamais su exister autrement. C'est pas vrai. C'est simplement, ils n'ont jamais existé autrement. C'est pas parce que... Alors, on peut dire, ils l'ont choisi, ils l'ont subi, ils ont qu'à se rébeller, ils ont qu'à se révolter. Pour le russe moyen, qui n'est pas totalement lavé du cerveau par la propagande, il est très clair que la vie en France est plus sympa que la vie en Russie. Et le russe qui peine à arrondir ses fins de mois, qui doit soudoyer les profs pour envoyer son enfant dans l'école où il veut, qui n'est pas sûr de pouvoir payer les médicaments pour sa vieille mère, la vie en Russie est extrêmement rude, y compris soit t'as énormément d'argent et tout va bien, mais dès que t'as pas énormément d'argent, ça devient très compliqué très vite, y compris pour des gens de la classe moyenne qui sont cultivés, vivent dans les villes, il y a plein d'espaces d'incertitude et d'instabilité. Mais il n'y a pas cette réflexion de notre problème, c'est parce que nous ne sommes pas un pays démocratique. Cette réflexion existe chez des opposants politisés et structurés comme un Alexei Navalny, qui savait de quoi il parlait parce qu'il avait à la fois les repères théoriques, politiques, intellectuels de à quoi ressemble une démocratie, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour construire une démocratie.
Les moscovites sont en colère.
Alexei Navalny, manifestation à Moscou, décembre 2011.
Et je vois que les gens feront tout pour protéger leurs droits, mais il n'y aura rien de dramatique. Il n'y aura pas de révolution. Mais ils demanderont juste des élections libres, et je suis sûr qu'on réussira. C'est qui le pouvoir ici ? Nous sommes le pouvoir. On ne veut pas le monopoliser, mais nous sommes le peuple.
Et on revient sur le problème de culture. Il n'y a pas de culture politique. Donc si on arrête un russe dans la rue et on lui demande « Décrivez-moi, c'est quoi une démocratie libérale ? C'est quoi une démocratie autoritaire ? C'est quoi une monarchie ?» C'est quoi ? Ils ne sauront pas dire. C'est un problème aussi de vocabulaire, de culture, enfin voilà, de bagage culturel.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Ce qui me paraît essentiel et qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que Poutine est un gamin de la rue qui a grandi dans les arrière-cours de Saint-Pétersbourg, dans des bandes.
J'ai passé le plus clair de mon temps dehors, avec d'autres garçons. Ils étaient tous comme moi.
Vladimir Poutine, documentaire pour France 5 en 2014.
Nos familles n'appartenaient pas à la classe privilégiée. Nous passions nos journées dans la cour, du matin jusqu'au soir, et parfois tard dans la nuit. Mais à l'adolescence, les choses ont changé. Chacun s'est développé différemment. Les plus en forme sont devenus grands et forts. Ils étaient supérieurs physiquement. Brusquement, il ne suffisait plus d'avoir de la personnalité pour mener le groupe. Il me fallait d'autres arguments pour maintenir mon statut au sein de la meute.
Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si les hommes et femmes qui nous dirigeaient aujourd'hui avaient été dans leur jeunesse des petites frappes de chefs de gang dans les cités dans lesquelles, voilà, où règne cette espèce de terreur de clan, en fait. Et donc, il applique cette mentalité de force brute, de mensonge, de louvoiement. C'est toujours le plus fort qui a raison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et en fait, il a exporté ça dans la politique. Et donc, entre la vision qu'il a pour la Russie, qui est un truc pas très structuré, parce qu'il n'a pas lu beaucoup de livres, parce que ce n'est pas une pensée très, très construite, et cette mentalité...
Un état d'esprit de petite frappe, et donc
construction mafieuse de son pouvoir. Et en fait, le poutinisme, c'est lui faire trop d'honneur que de dire que c'est un courant politique, c'est une construction mafieuse.
Je rappelle les références du livre de Véronica Dorman, « Un peuple qui marche au pas » chez Jean-Claude Lattès. Alors on continue de tenter d'explorer les ressorts de la politique russe et les raisons de la solidité de la dictature poutinienne. Yegor Gran, romancier et essayiste d'origine russe, a écrit « Z comme zombie » aux éditions Paul en 2022. C'est un livre terrible, drôle, sarcastique, assez sévère pour la population russe, dont l'auteur juge qu'elle est la première responsable de son sort. Et plus récemment, il est l'auteur de « L'entretien d'embauche au KGB » chez Bayard. Yegor Gran, est-ce que ça rime à quelque chose de vous demander ce qu'est politiquement le poutinisme ?
Politiquement...
Le isme suggérant une idéologie, évidemment.
Oui, bien sûr. Alors justement, le souci, c'est que pour moi, le poutinisme n'est pas une idéologie, c'est un pragmatisme. Le poutinisme, en fait, absorbe et dissout en lui-même toutes sortes de courants, parfois absolument contradictoires. L'exemple le plus flagrant, c'est le stalinisme et l'ultra-orthodoxie, qui se marient très très bien avec le poutinisme, alors qu'a priori, sur le papier, hein, en tout cas, ça a l'air d'être franchement contradictoire, puisque les staliniens sont méchamment athées, on va dire ça comme ça, sadiquement athées presque, alors que l'ultra-orthodoxie, c'est le contraire.
Synthèse impossible, une sorte d'oxymore politique bizarre. Je voudrais vous faire écouter deux extraits de Vladimir Poutine, et vous allez nous donner des explications.
Nous savons le rôle que les bolcheviks ont joué dans l'effondrement du front russe lors de la Première Guerre guerre mondiale. Le fait que nous ayons perdu face à une nation qui elle-même était en train de perdre la guerre, puisque l'Allemagne a capitulé peu après, c'est une situation unique dans l'histoire. Mais voici la principale raison pour laquelle je dis qu'il faut avoir un nouveau regard sur les idées formulées par Lénine. Lénine a dit que l'Union soviétique devait être formée sur la base d'une pleine égalité, avec la possibilité pour les États de faire sécession de l'Union. C'est ça la bombe qu'il a plantée sous la structure de notre État. L'autonomie culturelle, c'est une chose. Une autonomie avec d'importants pouvoirs étatiques, comme le droit de faire sécession, c'est autre chose. C'est ça, associer une économie et une politique sociale inefficace qui a mené à l'effondrement de l'État. C'était la bombe à retardement.
Voilà, Vladimir Poutine en 2022 et maintenant, toujours en 2022, un autre Vladimir Poutine sur l'URSS.
Il faut reconnaître que la dislocation de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.
Deux discours antagonistes. Comment c'est possible ?
Tout simplement parce qu'encore une fois, Poutine est un pragmatique et qu'il a besoin de rallier à son panache aussi bien les léninistes nostalgiques de l'Union soviétique d'antan. Je rappelle que Lénine est toujours sur la place rouge, hein, couché dans son cercueil. Et d'autre part, rassurer ceux qui pensent que les 70 ans de communisme ont été une période atroce, etc.
Et personne ne voit la contradiction.
Eh bien non, voilà, c'est ça un peu le drame des Russes, c'est qu'ils vivent dans la grandeur fantasmée de leur passé, qu'ils soient tsaristes ou qu'ils soient soviétiques. En fait, cette grandeur, cette soif de grandeur, cette illusion de grandeur leur suffit. Ensuite, à l'intérieur, Dieu les préserve d'observer des contradictions. C'est ainsi que, par exemple, le pacte germano-soviétique, ça sera tout simplement oublié, mis sous le tapis. Il y a toutes sortes d'autres contradictions qui se retrouvent dans le poutinisme. Vous avez, par exemple, l'ultralibéralisme, façon McKinsey, et vous avez l'étatisme, qui se retrouve pareil, aux mêmes loges. Vous avez les Nazbol de Limonov, vous savez, les national-bolcheviques de Limonov, qui se marient très bien avec des islamistes façon Kadyrov. Vous avez
le Tchétchène Kadyrov.
Voilà, le Tchétchène Kadyrov. Vous avez l'art contemporain le plus débridé qui s'expose à Moscou. Et en même temps, vous avez une pudibonderie affichée globale avec un discours anti-LGBT, par exemple, extrêmement violent.
C'est un toutisme, en quelque sorte.
Oui, c'est un pragmatisme. Le poutinisme, en fait, se cherche une idéologie, mais il ne l'a pas encore trouvée. Le poutinisme est une mafia, en réalité, une mafia alliée au FSB, donc un organisme de service secret ultra-puissant. Et, a priori, il pensait qu'il n'avait pas besoin d'une idéologie pour régner. La mafia, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'armes, de loyauté, de territoire à maintenir, de pouvoir. C'est ce qu'on a vu à l'œuvre les premières années du règne de Vladimir Poutine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre contradiction là-dedans qui était flagrante, c'est l'anti-occidentalisme cultivé, nourri, etc. Et en même temps, les oligarques qui plaçaient leur argent en Occident, qui envoyaient leurs enfants étudier dans les universités occidentales, qui soignaient leurs grands-parents dans des hôpitaux à Berlin, et qui, bien souvent, comme Abramovitch ou d'autres, possédaient la double, la triple nationalité.
C'est un cynisme, ou bien c'est simplement le fait de constater que la Russie n'ayant jamais été démocratique, c'est pas la peine de feindre des débats, et donc on est un peu tout alternativement selon les besoins du moment ?
Au départ, c'est absolument un cynisme qui se nourrit d'opportunités. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, le discours anti-LGBT, qui est aujourd'hui un des discours phares de Poutine, il y revient à chaque fois. Ou presque, quand il prend la parole, c'est pour dénoncer la dégénérescence de l'Occident. Voilà.
Ça, c'est les valeurs anti-occidentales.
Mais c'est très récent, en réalité, quand on regarde. Jusqu'à 2015, quelque chose comme ça, il n'y avait pas ce discours.
Alors justement, Igor Grin, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 2014. Vladimir Poutine, en visite en France, est interviewé par Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulot, et il évoque cette question de l'homosexualité.
Nous n'avons pas de loi interdisant l'homosexualité. Nous interdisons la promotion de l'homosexualité auprès d'un public de mineurs. Ce sont des choses tout à fait distinctes. Comprenez-vous ? Par exemple, certains États aux États-Unis ont des lois qui punissent pénalement les relations homosexuelles. Nous n'avons pas de peine de ce genre. Seulement quand il s'agit de propagande destinée à des mineurs. Nous avons le droit de défendre nos enfants. Et nous allons le faire.
Donc là, Igor Gren, on est en 2014. Le discours tendait à essayer de rassurer les démocraties occidentales, la France, les Français, les libéraux. Ça a changé depuis ?
Il ne tenait pas un discours anti-LGBT extrêmement violent comme il le tient aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si par hasard vous achetez un jouet à votre enfant et il y a un arc-en-ciel dessiné sur ce jouet, eh bien, vous pouvez être convoqué au commissariat de police et voilà, on vous demandera des explications.
Nous sommes avec Yegor Gran, essayiste et romancier d'origine russe, le poutinisme, premier épisode. Il y a un autre mystère, comment on arrive aujourd'hui en Russie, dans l'opposition que vous avez mentionnée à l'Occident démocratique, à assimiler cet Occident démocratique avec ce qui serait une résurgence du nazisme. Écoutez.
Plus de 12 000 soldats et des dizaines de blindés et de missiles défilent sur les pavés de la Place Rouge, juste devant le mausolée de Lénine. Vladimir Poutine, dans son discours, dénonce ce qu'il considère comme le retour dans le monde de l'idéologie nazie. Malheureusement, ceux qui sont obsédés par cette idéologie tentent à nouveau de s'en servir. Pas seulement des radicaux ou des groupes terroristes. Aujourd'hui, nous voyons des tentatives de réécrire l'histoire, de justifier les actes des criminels qui ont sur leurs mains le sang de centaines de milliers de civils. Notre peuple ne sait que trop bien où cela mène. Chacune de nos familles garde précieusement le souvenir de ceux qui ont remporté la victoire. Vladimir Poutine dénonce chez certains pays européens ce qu'il estime être de la complaisance vis-à-vis des nostalgiques de l'Allemagne nazie. Le président russe fustige également le révisionnisme historique qui serait à l'œuvre, selon lui, parmi les pays occidentaux, accusé de minimiser le rôle joué par l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Une façon pour le président russe d'exalter le souvenir de ce conflit auprès de la population, tout en jouant la carte de la confrontation avec l'Occident. Daniel Valot, Moscou, RFI.
Voilà, c'est un reportage du 9 mai 2021. Le 9 mai, évidemment, l'anniversaire de la capitulation nazie face aux soviétiques. Nous sommes, nous, les Occidentaux, des dépravés démocrates et en même temps des pro-nazis. C'est quand même étrange.
Oui, il faut l'assumer. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette parade... C'est pas du tout innocent. C'est quelque chose qui a été mis en place très très tard. Nous, on a souvent tendance à penser que ça existe depuis 1945. Mais en fait, absolument pas. Le 9 mai est devenu jour férié en URSS en 1965 seulement. Avant, personne ne fêtait cette journée de la victoire. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, tout simplement parce que la Seconde Guerre mondiale a été une telle boucherie que ça venait à l'idée de personne de fêter le 9 mai. Et ce n'est que plus tard, en 1995, que ce jour est devenu la parade officielle, obligatoire, donc des forces armées sur la Place Rouge. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, se met en place une idéologie de culte du passé, encore une fois un passé fantasmé, libéré de tous les petits éléments gênants, hein, pour créer un semblant d'unité autour de Vladimir Poutine.
Alors je voudrais vous faire écouter maintenant un autre extrait d'un discours de Vladimir Poutine. C'était en 2019. Il s'agit de fustiger la société libérale et ouverte.
Et puis ce libéralisme moderne, à mon avis, est obsolète. Et nos partenaires occidentaux ont admis que certains de ces points sont tout simplement irréalistes. Une erreur cardinale. On peut critiquer autant qu'on veut le président Trump pour sa volonté de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Mais il doit faire quelque chose avec le flux de migrants et de drogue, n'est-ce pas ? Personne ne fait rien. L'idée libérale présuppose que rien ne doit être fait. Les migrants peuvent tuer, piller et violer en toute impunité parce que leurs droits en tant que migrants doivent être protégés. Quels droits ? Tout crime doit être puni.
Alors, Yegor Gran, ici, c'est une attaque virulente contre l'Occident, en tout cas contre la partie libérale de l'Occident.
Pas vraiment. Moi, j'ai entendu surtout un discours anti-migrant. qui est quelque chose qui est tout à fait dans l'armement maintenant du poutinisme, consistant à juste stimuler la partie, on va dire, extrême droite ou droite dure de tous les pays occidentaux pour les faire réagir face à ce défi qui est...
Je disais libéral au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire libéral politique. La société ouverte.
Alors, ils sont amusants au Kremlin, parce que d'un côté, il y a ce discours-là, mais d'un autre côté, dans les faits, la libéralisation de la Russie a amené un ultra-capitalisme absolument dément, avec des montagnes d'argent...
Qui n'est pas remise en cause.
Absolument pas. Et encore une fois, symbole de cette contradiction idéologique fondamentale, c'est McKinsey. McKinsey, donc grand cabinet de conseil mondial, dirigé à Moscou... par le fils d'Alexandre Solzhenitsyn. Vous voyez, cette alliance des contraires ne gêne absolument pas le poutinisme.
Igor Gradd, dans votre livre Z comme zombie, vous en prenez non pas aux dirigeants, non pas seulement aux dirigeants, on comprend bien que vous n'êtes pas d'accord avec le poutinisme, mais vous en prenez au peuple qui se laisse avoir, qui se laisse endormir et qui devient zombie presque de son propre gré.
Oui, alors c'est... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en Occident, on a toujours ce discours, voilà, que se passe-t-il chez Poutine? Comment le Kremlin pense-t-il? Voilà. Au-delà de Poutine, malheureusement, c'est notre grand malheur, en premier lieu de l'Ukraine, c'est qu'il y a le peuple russe qui n'a rien contre l'idée d'envahir l'Ukraine. Alors, dans sa majorité, hein, bien sûr, il y a des opposants, quelques opposants, mais si vous sortez de Moscou, si vous sortez de Saint-Pétersbourg, que vous allez vous balader dans les villes comme Perm ou Nijni Novgorod ou d'autres, et que vous parlez à des gens simples, vous verrez que, un, le soutien à Poutine est massif, deux, le fait que l'Ukraine appartienne à la Russie, c'est une évidence pour eux, et qu'ils jugent qu'ils sont en plein droit d'aller y faire la loi et de piller ce qui est pillable. Il y a, d'un côté, Poutine et sa propagande qui descend en quelque sorte verticalement une idéologie vers le peuple, mais de l'autre côté, il y a aussi le peuple qui monte, si on veut bien prendre cette image, vers Poutine, monte rejoindre Poutine pour mener un combat qui lui semble juste.
Vous dites que le peuple n'est pas simplement finalement une masse de gens qui seraient abrutis par une propagande très puissante, mais qu'elle a sa part de responsabilité.
Absolument. D'abord, cette propagande, certes, elle est puissante, certes, elle existe, mais la censure n'est pas absolue en Russie aujourd'hui. Prenez YouTube, par exemple. YouTube n'est pas censuré en Russie. YouTube, c'est 45 millions de gens, de Russes, qui se connectent chaque mois. Alors, sur YouTube, vous avez tout. Vous avez aussi bien les discours de Zelensky que des analyses de journalistes occidentaux. Vous avez tout. Mais que font les Russes sur YouTube? Ils ne regardent absolument pas ces informations-là qui les gênent. Ce qu'ils regardent, c'est comme nous, les recettes de cuisine, des films nostalgiques, voilà, ce genre de choses.
C'est assez désespérant, votre discours, parce que vous parlez d'une mentalité qui n'a aucune raison de changer.
C'est peut-être désespérant, mais c'est réaliste. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre à qui on a affaire et bien comprendre que le mal ne se limite pas au Kremlin. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de remplacer le méchant Poutine par un gentil Poutine pour que tout change. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inquiétant dans cette Russie.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Alors Igor Gradd, on est à la veille d'élections en Russie. On se projette en arrière en 2018 lors des dernières élections. Un reportage de la télévision au cœur d'une famille russe.
Ils viennent tout juste d'emménager dans leur premier appartement, un petit deux pièces au nord de Moscou. Maria est fleuriste, Stanislav programmateur informatique. Ils appartiennent à cette classe moyenne qui est apparue en Russie au moment où Vladimir Poutine accédait au pouvoir. Et c'est pour lui, sans la moindre hésitation, que Stanislav va voter à l'élection présidentielle, au mois de mars prochain.
Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, la Russie était en plein chaos. Il y avait la guerre en Tchétchénie, le naufrage du sous-marin Kursk et des problèmes à n'en plus finir. Mais lui, il a tenu bon et pour ça, on lui doit un grand merci.
Maria, elle, est plus hésitante.
On s'est fâché avec l'Europe et les États-Unis. Il nous reste qui comme ami?
Arrête!
Je n'ai jamais dit que je détestais Poutine. Je le respecte vraiment, surtout parce qu'il a redressé le pays depuis qu'il est là.
Donc on sent quand même dans cette petite famille, dans ce couple, un début de débat.
Oui, un débat qui se terminera bien vite, parce que même avec la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que même un événement aussi majeur, aussi traumatisant pour un pays qu'une guerre, n'a pas vraiment clivé la société russe. Il y a toujours, malgré les quelques opposants qui existent toujours et qui manifestent, etc., la majorité des Russes sont pour la guerre. C'est quand même étonnant. Là, on est à 2 ans après le début de la guerre. Il n'y a toujours pas le commencement du début d'un mouvement anti-guerre en Russie. C'est-à-dire que, finalement, les Russes sont très bien avec cette guerre, se sentent bien avec cette guerre.
Et quand vous téléphonez, par exemple, à des gens que vous connaissez en Russie, des gens de votre famille, et que vous entamez ce genre de débat, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, moi, je connais toutes sortes de gens en Russie. Il y a, bien sûr, des intellectuels que je connais en priorité et qui sont anti-guerre et qui sont affolés. Mais je connais aussi des gens simples, des Russes simples, qui disent de manière très claire que l'Ukraine a toujours appartenu à la Russie et que, finalement, s'il y a cette guerre, c'est parce que les Ukrainiens ne veulent pas se rendre. Comme m'a dit un type, il m'a dit « Quand on voit un char russe venir vers vous, on lève bien sagement les mains et on se rend. » Voilà. Et donc, on a beau leur montrer toutes les atrocités, Boutcha et compagnie, ils disent « Mais c'est de votre faute, vous n'avez qu'à vous rendre. » Bon, à partir de ce moment-là, on ne peut plus tellement parler.
Comment vous réagissez à ce qu'on dit généralement en Occident, ces espèces de poncifs, mais qui sont peut-être des réalités sur l'âme slave, le drame slave, le fait que les Russes ou les Slaves ne vivent que dans la tragédie et donc ne peuvent pas accéder, comme nous, à la démocratie ouverte, que c'est un pays qui se gouverne toujours par le knout.
C'est un cliché qui est très agaçant. Hein. On pourrait dire ça aussi de la France avant 1789, et puis ça a bien changé.
C'est un cliché agaçant, mais tel que vous nous parlez de la mentalité russe, ça le renforce, ce cliché.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le Knout qui gouverne les Russes, ce n'est pas Poutine qui impose sa loi dans une sorte de dictature implacable à la Staline. C'est faux. Aujourd'hui, les Russes veulent bien envoyer un certain nombre de leurs enfants à la boucherie en Ukraine, se mettre à dos l'Occident. Donc non, c'est pas vraiment, comment dire, quelque chose qui est imposé aux Russes. Hélas, c'est la grande tragédie de l'Ukraine et de l'Occident aujourd'hui, elle est bien là.
Donc vous incriminez plutôt les Russes que leur gouvernement. Est-ce que c'est à mettre sur la même lignée que ce qu'on pourrait dire de certains Américains qui s'apprêtent peut-être à élire une deuxième fois un homme fort, qui n'a pas l'air d'apprécier aussi tous les éléments de la démocratie dite libérale, ou de certains Français qui s'apprêtent aussi à voter pour des solutions autoritaires ?
Incontestablement, il y a des atomes crochus entre le trumpisme et Poutine. Mais au-delà de ça, ce qui s'est passé en Russie, ça s'est pas passé en une journée, hein, ça a pris 20 ans, c'est une sorte de mise en place d'une extermination de l'humanisme. Petit à petit, à partir du milieu des années 90, une sorte de darwinisme économique s'est imposé, c'est-à-dire que le faible est là pour être écrasé et le fort est là pour mener à bien ce qu'il a à faire.
C'est plus une conséquence de l'ultralibéralisme économique qui s'est installé dans certaines parties de l'économie et de la société russe qui a abouti à cet amour de l'ordre et de la force.
Alors, il y a d'une part l'ultralibéralisme, mais d'autre part une compétition sauvage et un anti-humanisme fondamental. Vous savez, vous pouvez être dans une société libérale, comme nous on l'est, et avec une répartition des ressources, par exemple, une justice sociale, aider son prochain.
Là, il n'y a pas cette aspiration populaire, il y a beaucoup de richesses en Russie. Il n'y a pas une aspiration populaire à mieux les partager ?
Absolument pas. Aujourd'hui, absolument pas. Au contraire, j'ai rencontré des gens tout à fait simples qui gagnent entre 350 euros et 450 euros par mois. Et quand on leur pose la question « Mais que faire avec les oligarques ?», ils disent « Mais c'est très bien, on en est fiers. » Les oligarques, ils ont été bons, ils ont été hyper débrouillards, ils font la nique à l'Occident. En fait, c'est vous les dindons de la farce. C'est-à-dire que avec votre système, vous avez permis chez nous que des malins de chez nous, mais ils sont nôtres, ils sont russes, et donc on en est fiers, utilisent vos ficelles pour acheter vos entreprises, vos villas, vos yachts, etc.
Cette réaction que vous nous décrivez prouve que le patriotisme est au-dessus de tout, finalement.
Alors, c'est un patriotisme...
Fier d'oligarques parce qu'ils sont russes, même s'ils pillent les ressources du pays.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons de l'échec de Navalny. Quand Navalny parlait de la lutte contre la corruption et une répartition plus juste des richesses, il n'était entendu que par une portion infime des Russes.
Nous pouvons et nous devons vivre mieux. Mais ce n'est pas le cas, car on nous a tout volé.
Alexei Navalny, en campagne présidentielle en 2018.
Ici, il y a beaucoup de gens qui, comme nous, sont contre la corruption, veulent le changement et vivre mieux. Ils veulent de meilleurs salaires que la Russie pourrait immédiatement leur accorder. Notre but, c'est de présenter ce programme à tout le monde.
Le meurtre de Navalny, il y a deux coupables. Le premier coupable, c'est le Kremlin. Et le deuxième coupable, c'est l'indifférence du peuple russe à son combat.
Et vous ne dites pas, Yegor Gran, que le peuple russe est indifférent ou à cette mentalité-là, tout simplement parce qu'il n'a jamais pu goûter à la démocratie et au véritable débat et à la société ouverte.
Non, c'est faux. Il a goûté à cette société ouverte pendant une petite dizaine d'années, entre 1991 et les années 2000.
Ah ça, c'était la sauvagerie capitaliste, sans la véritable démocratie politique.
Oui et non. Il y avait pléthore de partis politiques, pour le coup, qui étaient représentés. Vous aviez une presse entièrement libre. Vous aviez des médias qui diffusaient toutes sortes d'émissions pour ou contre l'ordre établi. C'était une période, maintenant, que beaucoup d'intellectuels regrettent amèrement.
Alors, Yegor Gran, la semaine prochaine, samedi prochain, Enquête de politique sera consacrée au poutinisme, mais au poutinisme en France, à son influence et à la fascination que Poutine exerce chez certains intellectuels et chez quelques politiques. Je vais vous demander, pour faire un petit teasing pour samedi prochain, de nous donner votre impression quand vous voyez Marine Le Pen, Éric Zemmour, parfois Jean-Luc Mélenchon, quelques intellectuels, Michel Onfray, être fasciné par la Russie en France alors que nous avons toutes les libertés. Comment vous réagissez, vous, le Français d'origine russe qui vivait en France ?
Tous les personnages que vous avez cités, là on est carrément, on est passé de l'autre côté de la force obscure. Hein. C'est la cinquième colonne, hein, très clairement. C'est des gens qui revendiquent à la Russie le droit de faire régner l'ordre militaire en Europe. En général, pourquoi cette fascination pour la Russie ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite y trouvent une certaine nourriture idéologique. L'extrême gauche par anti-américanisme, l'extrême droite par tout un discours en effet extrêmement autoritaire, anti-LGBT, identitaire bien sûr. Mais il y a autre chose aussi, j'ai rencontré en parlant avec des amis français très souvent, c'est que je leur dis, oui mais alors vous voyez Poutine, et eux ils me répondent, oui mais la grande culture russe, comme si c'était un argument. En effet, il y a une sorte de russophilie chez les Français, puis chez les Occidentaux en général, qui se construit aussi sur cette idée, sur le soft power russe, qui est la grande culture russe, Dostoïevski, Pouchkine et compagnie, qui sont des très très grands auteurs. La suprématie russe serait justifiée par l'existence de ces écrivains géniaux. On entendait exactement le même discours dans les années 30 par rapport à l'Allemagne. On disait, mais l'Allemagne c'est pas que Hitler, l'Allemagne c'est Goethe, c'est Wagner, Mozart, Goethe, c'est Beethoven, etc. Comment va-t-on gérer la complaisance, la complicité avec Poutine qui s'est bien enraciné en France ?
Eh bien c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine dans Enquête de politique, rendez-vous 18h10. Merci beaucoup Yegor Gran.
Merci à vous.
Samedi prochain, vous l'avez compris, le poutinisme, une singulière fascination française. Mais par quel mystère le dictateur Poutine arrive-t-il à séduire une partie de la classe politique de notre pays ? Avec quelques archives assez savoureuses ou affligeantes, ce deuxième numéro est déjà disponible en podcast sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter. Enquête de politique est aussi rediffusée le dimanche à 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.